RTL Original Podcast. La route des vins du Luxembourg.
Bonjour Charlène.
Bonjour Mathieu.
Comment vas-tu?
Ça va et toi?
Ça va super bien Charlène, merci, tu me reçois ici. Ah, c'est ta cave de prédilection ici à Grevenmacher.
Tout à fait,
Moselle,
oui,
hein.
Oui, oui.
Ouais, ouais. C'est là où tu officies la plupart du temps?
Exactement, oui, je suis responsable de la cave de Grevenmacher.
Oui, car rappelons-le, il y a plusieurs caves hein, de vin Moselle hein, tout au long de la route des vins. Hein.
Tout
c'est
à
pas
fait,
la seule,
hein. On a la cave de Remerschen où on a une belle Weihstuf. Il y a également la cave de Wellenstein où on a le centre d'embouteillage et la vinification. On a la cave de Wormeldange où on fait encore le tirage des créments. Et puis la cave de Grevenmacher où on produit également du vin.
On resitue un petit peu le contexte. Hein, Vin Moselle, c'est le plus gros producteur de vin ici au Luxembourg. On peut représenter très succinctement en expliquant un peu comment est-ce que vous fonctionnez avec les viticulteurs.
Eh bien, c'est des membres coopérateurs. Donc, ils nous apportent leurs raisins. Ils font également partie, ou quelques-uns des vignerons font partie du conseil d'administration. Donc, c'est le conseil d'administration, c'est le patron de la coopérative. Donc, ils prennent part à toutes les décisions. Et puis, dans la pratique, ils nous ramènent gentiment leurs raisins à la vendange et puis on essaye de faire le meilleur vin possible.
Alors il y a un certain nombre de gammes hein, que vous concoctez tout au long de l'année. Il y a cette grand-messe qui est chaque 1er mai ici chez Vin Moselle, le Prouvetag où vraiment tous les vins sont ouverts pour les faire découvrir un petit peu à chacun. Mais aujourd'hui on est là pour la sortie d'un vin. Alors la sortie, c'est une sortie qui met tellement de temps, mais en tout cas pour un vin qui est complètement exceptionnel. C'est le vin de paille. Les connaisseurs de vin le connaissent très bien, mais souvent d'autres se disent « J'ai déjà entendu ce mot quelque part, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. » On va commencer par le début, on va parler de l'histoire de ce vin de paille et rappeler pourquoi on l'appelle ainsi.
Eh bien, le vin de paille, dans le temps, on coupait les raisins à la vendange et puis on déposait ces grappes sur un lit de paille. Et les raisins restaient et se desséchaient naturellement avec le temps. Et quand l'eau s'évapore, ce qui reste dans le raisin, c'est le sucre. Et à un moment donné, on le presse et on obtient un espèce de nectar très très sucré, très concentré dans les arômes, dans l'acidité, dans le sucre évidemment, et qu'on va faire fermenter comme un vin tout à fait normal et qui va donner cette belle liqueur bien sucrée que les amateurs de moelleux, là on n'est plus trop dans le moelleux, là on est déjà dans le liquoreux, apprécient énormément.
Et je vais poser une question qui peut sembler peut-être un peu bête, mais c'est pas compliqué justement à un moment donné de réussir à accomplir un vin sur un produit qui est plus voué à devenir une liqueur?
C'est un processus qui est un tout petit peu différent. Il y a des choses où on doit vraiment faire attention dans le process, mais ça se fait. Ça se fait sans encombre normalement.
On est donc fin janvier, on s'est eu au téléphone la semaine passée où tu m'as dit ça y est, le vin de paille 2024 est pressé. Le fait qu'il soit pressé c'est une chose, mais c'est une étape parmi tant d'autres. Par où ça commence déjà la première étape du vin de paille?
Ça commence à la vendange, exactement au même moment où on va récolter les raisins pour faire du vin conventionnel normal. Donc on va couper les plus belles grappes relativement tôt dans la vendange pour être sûr qu'on ait le meilleur état sanitaire possible du raisin. Donc il faut vraiment des grappes qui sont vraiment parfaites, où les grains n'ont pas de défauts. Et puis on va déposer ces grappes en une seule couche et elles ne doivent pas se toucher les unes les autres. Donc ça se passe dans des petites cagettes qu'on va rassembler et emmener à Wellenstein. Elles vont être stockées dans une grande halle, bien aérée, bien ventilée, parce qu'il est très très important que le degré d'humidité ne soit pas trop élevé pour éviter tout type de développement bactérien, moisissure sur les raisins.
Sur ce type de vin de paille, on travaille sur du monocépage, hein, c'est ça hein.
On travaille sur du monocépage. Donc en ce qui nous concerne, on en fait ou on essaye au moins d'en faire dans les cépages auxerrois, Gewürztraminer et Riesling.
On est au moment où on l'a pressé, mais en tout cas on a des indicateurs hein, quand même techniques qui tendent à croire que le vin va être bon, riche ou sucré. Comment ça fonctionne ces indicateurs? J'imagine qu'il s'agit de sucrosité, hein, c'est ça?
Tout à fait, quand on va récolter les grappes, déjà ils ont leur propre sucrosité à la vendange. Donc y a des années où les raisins sont plus ou moins mûrs ou plus ou moins riches en sucre au départ. Ensuite, avec l'évaporation de l'eau et la concentration du sucre dans les baies, on va arriver à des Huxley qui vont avoisiner les 170-180, ce qui est quand même énorme, sachant qu'au départ, on était plutôt dans les 70-80-90 Huxley. Voilà. Donc en fait, ce processus va durer au minimum 2 mois. Hein, c'est un délai légal de concentration du sucre et des arômes dans les raisins. Et puis après, on va faire nos analyses au labo pour voir où un petit peu où on en est avec la sucrosité. Et quand on aura décidé que c'était le bon moment et qu'ils avaient assez de sucre, pas trop quand même, parce que trop de sucre, on va y revenir, mais c'est pas vraiment avantageux pour la vinification. Quand on est dans les 170-180 Huxley, alors on prend la décision de passer à l'étape du pressurage, qui doit être également à nouveau déclaré au contrôle des vins pour justement justifier de ce délai minimum de 2 mois. Et donc on va les passer au fouloir, donc on va les écraser. Hein. On va laisser macérer les raisins foulés une nuit, et le lendemain, on va procéder au pressurage.
Comme on le ferait pour un vin qu'on souhaiterait teinter à l'arrivée. Hein.
Oui, c'est une macération d'une nuit, comme on pourrait le faire par exemple pour un rosé ou un pinot gris de gris.
Tu parlais de nectar tout à l'heure, on a un petit peu de mal à s'imaginer le nombre de pieds de vigne, de kilos, qu'est-ce qui est nécessaire vraiment pour à un moment donné pouvoir concocter, j'allais dire une bouteille, mais déjà rien que la bouteille, c'est pas une bouteille traditionnelle.
Non, c'est une petite bouteille, c'est 37,5 centilitres, donc ça équivaut à un tiers d'une bouteille de vin normal.
Ah ouais, donc c'est quand même incroyable. Et là, finalement, on part sur combien de kilos pour obtenir une bouteille ou un litre ?
Là, il faut en moyenne 100 kilos de raisin pour produire 15 litres de vin de paille. Petit rendement au pressurage.
Ah ouais, donc si je fais un rapide calcul mathématique, c'est au moins à la louche 5 kilos de raisin pour une petite bouteille.
C'est ça.
Ça paraît énorme.
Ouais, c'est énorme, mais quand on voit la qualité du produit, sa concentration et même son aspect en fait, un petit peu visqueux, liquoreux comme ça, on comprend bien qu'il a fallu du matériel pour en arriver là. Ouais.
Ça a l'air d'être quand même un travail de dingue. Tous les ans, on opte pour la production comme ça d'un vin de paille ?
Alors tous les ans, on va essayer au moins. Mais il y a des années qui s'y prêtent évidemment mieux que d'autres. Par exemple, les années où les raisins sont dans un état sanitaire parfait, là, on va avoir déjà beaucoup de volontaires pour participer au projet, hein, puisque ce sera simple. Il n'y aura que des beaux raisins dans la vigne, donc on recevra que des beaux raisins pour faire du vin de paille.
Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une surveillance accrue vraiment du raisin ? Toutes les semaines, vraiment, on va faire le tour des cagettes, on va regarder s'il n'y a pas un raisin qui va pourrir, il y a des gros risques que tout chavire, qu'est-ce qu'il en est ?
C'est exactement ça, il faut vraiment surveiller les raisins, leur aspect, et puis dès qu'on voit une baie qui est un petit peu endommagée, on va la retirer pour pas qu'elle contamine les autres.
On n'a pas les chiffres aujourd'hui de la production globale des domaines vin Moselle, mais bon, ce type de vin de paille, ça doit peser 0,01 de la production. Finalement, pour vous, qu'est-ce que ça signifie de pouvoir proposer une pépite comme ça, sachant que c'est pas la fonction première ?
Non, mais c'est un petit peu l'image de notre savoir-faire. Hein. On veut montrer un petit peu que nous aussi, on peut faire des produits exceptionnels. Voilà, pour l'œnologue, évidemment, c'est un challenge et puis c'est une fierté surtout à la fin.
Puis il y a cette gamme Vignum, hein, qui est une gamme qu'on connaît au sein des restaurants. On a aussi vos créments qui commencent à collectionner les médailles d'or. Il y a cette volonté vraiment maintenant de taper bien, bien plus haut.
Tout à fait, la volonté, elle est toujours là. Quand on fait ce métier, on veut toujours s'améliorer et puis on y arrive toujours.
Bon, en tout cas, ce vin de paille, donc on l'embouteillera que dans quelques mois. Est-ce que comme un crément, il y a aussi le choix de le laisser un petit peu tranquille une fois qu'il embouteille ?
Tout à fait, on n'est pas stressé à ce niveau-là. Il n'y a pas d'impératif pour sortir absolument le produit. Déjà, quand on va le presser, après, il va falloir le mettre en fermentation. C'est une fermentation classique, hein. On met des levures qui transforment le sucre en alcool. Il y a une petite particularité, on va essayer de mettre le jus de raisin, le nectar non fermenté à une température déjà propice au travail des levures, parce que la levure, quand elle a froid, elle travaille pas de manière optimale. Donc on va le réchauffer un petit peu pour que la fermentation parte le plus vite possible et qu'elle soit régulière et relativement rapide pour pas avoir de développement de goût qu'on souhaite pas avoir dans le vin. Et surtout pour atteindre aussi les 12% volume d'alcool minimum réglementaire.
Vous êtes tributaire des saisons comme ça pour lancer un vin qui va être un petit peu capricieux par rapport aux levures ?
Non, pas vraiment, on peut gérer, il suffit juste de mettre la cuve dans une pièce un petit peu chauffée et puis ça fait l'affaire, même en hiver.
Ce vin de paille, on peut le consommer de quelle manière à table déjà ?
Si vous me posez la question, moi je le consomme avec rien, voilà, c'est le dessert. Après on peut le consommer en accompagnement d'un dessert bien sûr, un dessert fruité, mais également d'un dessert chocolaté, ça passe très bien. Puis on pense évidemment au foie gras.
Et j'imagine une température de service qui va être un petit peu moins fraîche qu'un vin blanc ordinaire.
Oui effectivement, on peut... on n'est pas obligé de le déguster à 3 degrés. Hein. Quand ça se réchauffe justement, il y a toute cette complexité aromatique qui arrive dans le nez et au palais également. Donc non, c'est pas nécessaire de le mettre longtemps au frigo.
Rassure-moi, on va continuer à partir sur les cagettes pour le vin de paille, on remet pas la paille.
On remet pas la paille. Oh non, on est bien là.
Ça marche. Merci beaucoup.
Merci, au avec
revoir.
Plaisir Mathieu.
À bientôt.
À bientôt.
La route des vins du Luxembourg.